VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde aujourd'hui, édition du lundi 29 mars 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. La Côte d'Ivoire frappée par des attaques qualifiées de terroristes par le gouvernement. Elles ont visé les localités de Kafolo et Teini, près de la frontière avec le Burkina Faso. Au Mozambique, des milliers de personnes continuaient de fuir ce lundi la ville portuaire de Palma, tombée ce week-end aux mains des groupes armés djihadistes. Toutes les hypothèses sur les origines du Covid-19 méritent d'être étudiées. C'est la réaction du patron de l'OMS au rapport sur les origines de la pandémie. Ici aux États-Unis, c'est ce lundi à Minneapolis que s'ouvre le procès du meurtre de George Floyd, cet Africain-Américain dont la mort en mai 2020 avait suscité une vague d'indignation et de manifestations. Le monde aujourd'hui, c'est aussi l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. Au moins 6 personnes, dont 3 assaillants, ont été tuées dans 2 attaques contre l'armée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ces attaques, qualifiées de terroristes par le gouvernement ivoirien, ont eu lieu dans les localités de Kafolo et Teini, près de la frontière avec le Burkina Faso. Les précisions de Aïcha Diarra depuis Boaké.
La première attaque est survenue entre minuit et 1h du matin la nuit dernière. Selon un communiqué de l'armée ivoirienne, une soixantaine de mains armées en provenance de Bénin ont d'abord attaqué la position de l'un au terme d'une heure de combat intense et a entrepris des opérations de ratissage qui se poursuivent, selon le général Lassina Doumia, chef d'état-major des armées ivoiriennes. Dans son communiqué, il affirme que 2 soldats ivoiriens ont été tués et 4 blessés. 3 assaillants ont été abattus et 4 interpellés selon l'armée ivoirienne qui dit aussi avoir saisi du matériel logistique. La seconde attaque a eu lieu à Kolobougou, localité également frontière du Burkina Faso, dans le département de Teini, où un poste de gendarme a été cible d'individus non identifiés. Dans cette dernière attaque, un gendarme ivoirien a été tué, un autre est blessé, affirme l'armée. En juin 2020, une attaque contre l'armée ivoirienne s'était déjà produite à Kafolo, au cours de laquelle 14 soldats avaient été tués, attribués aux djihadistes. Cette attaque n'avait pas été révélée. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Et puis la Cour pénale internationale statuera mercredi sur l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, premier chef d'État à être jugé devant ce tribunal. Laurent Gbagbo est accusé des crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Près de 10 ans après l'ouverture du dossier, la Chambre d'appel de la CPI pourrait confirmer l'acquittement et ainsi clore l'affaire, ou au contraire ouvrir la voie à un nouveau procès souhaité par l'accusation. La procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, a interjecté appel en septembre 2019, 8 mois après l'acquittement, souhaitant un nouveau procès. En République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale a invité lundi les députés de l'Est du pays à quitter les groupes armés accusés d'exactions et de massacres des civils. Ces députés, originaires des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, ont bruyamment demandé que la question de l'insécurité permanente dans l'Est du pays soit traitée en priorité lors de cette reprise de la session parlementaire du mois de mars. Selon un groupe d'experts du baromètre sécuritaire du Kivu, l'Est de la RDC est déstabilisé par les activités de plus de 122 groupes armés recensés dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Au Mozambique, des milliers de personnes continuaient de fuir ce lundi la ville portuaire de Palma, tombée aux mains, on le disait, de groupes armés djihadistes ce week-end. Les Nations Unies et des ONG tentent de leur venir en aide. Claire Morin-Gibourg.
Palma s'est transformée en ville fantôme alors que des milliers de ses habitants ont fui. Le groupe État islamique a affirmé avoir désormais le contrôle de cette ville. Plusieurs agences de l'ONU se sont réunies dans la matinée pour coordonner leurs efforts et organiser le transport vers des zones sûres de milliers de civils réfugiés dans les forêts ou les plages environnantes. D'autres se sont dirigés vers le site gazier piloté par Total, situé à seulement 10 km de la ville sinistrée. Selon une source participant aux opérations d'évacuation, il y aurait entre 6 000 et 10 000 personnes réfugiées à l'intérieur du site ou demandant à l'être. Une situation compliquée à gérer, d'autant que les travaux de construction du site gazier sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, donc avec peu de personnel et de ressources. L'attaque d'ampleur menée mercredi à Palma s'est traduite par des dizaines de morts parmi les civils, a confirmé dimanche soir la défense mozambicaine, mais le bilan est encore incertain. Une dizaine de camions chargés de civils fuyant un hôtel de Palma où ils s'étaient retranchés ont disparu depuis vendredi, faisant redouter de nombreux autres morts.
Et puis, l'ONU a fermement condamné ces attaques attribuées à des groupes djihadistes dans la ville portuaire de Palma au Mozambique. Des actes odieux, a déclaré lundi son porte-parole, Stéphane Dujarric. Nous sommes profondément préoccupés par la situation toujours en évolution à Palma où les attaques armées ont commencé le 24 mars, tuant des dizaines de personnes, dont certaines tentaient de fuir un hôtel où elles s'étaient réfugiées. Nous continuons de nous coordonner étroitement avec les autorités sur le terrain pour fournir une assistance aux personnes touchées par la violence, a-t-il ajouté. Au Kenya, Sarah Obama, que l'ancien président américain Barack Obama considérait comme sa grand-mère, est décédée ce lundi matin à l'âge de 99 ans dans un hôpital de Kisumu dans l'ouest du Kenya. Née en 1922 sur les rives du lac Victoria, celle qui était surnommée Mama Sarah fut la troisième femme de Hussein Onyango Obama, grand-père paternel du président américain. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec Sarah, Barack Obama a souvent fait savoir qu'il la considérait comme sa grand-mère et lui a rendu plusieurs visites.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OMS et la Chine viennent de boucler un rapport sur les origines du COVID-19. Ce rapport privilégie l'hypothèse d'une transmission par un animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Le rapport écarte l'idée que le coronavirus viendrait d'un laboratoire et conserve la piste animale pour la transmission à l'humain. Le patron de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, a précisé que le rapport privilégie l'hypothèse d'une transmission par un animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme et juge très improbable celle d'une fuite d'un laboratoire. Les 17 experts internationaux mandatés par l'OMS et leurs 17 collègues chinois évoquent aussi comme possible une transmission directe de la chauve-souris à l'homme ainsi que par de la viande surgelée. Lors d'un point de presse conjoint avec le ministre allemand de la coopération, Gerd Müller, le docteur Tedros Adhanom a ajouté que toutes les hypothèses avancées dans le rapport méritent des études supplémentaires et complètes. Le rapport a été remis dimanche aux États membres de l'OMS, dont les experts en santé publique seront informés davantage d'ici mardi. Le rapport sera ensuite rendu public et suivi d'une conférence de presse des auteurs.
Pas moins de 400 millions de doses du vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson vont être livrées aux pays de l'Union africaine. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le géant pharmaceutique américain. Selon les termes de l'accord, 220 millions de doses du sérum qui ne nécessitent qu'une seule injection seront distribuées aux 55 pays membres de l'Union africaine. La livraison devrait débuter au troisième trimestre 2021. Les pays concernés pourront, s'ils le jugent nécessaire, commander 180 millions de doses complémentaires pour un total de 400 millions de vaccins Johnson & Johnson acheminés d'ici 2022. Ici aux États-Unis, le procès du meurtre de George Floyd s'ouvre ce lundi à Minneapolis. L'avocat de la famille de cet Africain-Américain, dont la mort en 2020 avait suscité une vague de manifestations, qualifie ce procès de référendum sur la justice américaine. Abdourahman Dia.
Aujourd'hui commence un procès historique qui sera un référendum sur le chemin parcouru par l'Amérique dans sa quête d'égalité et de justice pour tous, a déclaré Ben Crump juste avant l'ouverture des débats de fond au procès du policier Derek Chauvin. Nous voulons savoir où est la justice, le monde entier nous regarde, a-t-il ajouté. Derek Chauvin, 45 ans, dont 19 au service de la police de cette grande ville du nord des États-Unis, est inculpé de meurtre et d'homicide involontaire. Le 25 mai 2020, il était resté agenouillé pendant près de 9 minutes sur le cou de George Floyd, plaqué au sol et menotté. L'avocat du policier va essayer de salir la mémoire de George Floyd, mais les faits sont simples. Ce qui a tué George Floyd était une overdose de force excessive, a affirmé Ben Crump, accusant l'ex-policier d'avoir torturé M. Floyd. L'arrestation et l'agonie de George Floyd a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de colère contre le racisme et les brutalités policières dans le monde entier.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a officiellement soumis sa candidature lundi auprès de la commission électorale, confirmant qu'il n'y aurait pas de liste commune avec le Fatah laïque du président Mahmoud Abbas aux législatives. Les Palestiniens sont appelés à voter pour des élections législatives le 22 mai et présidentielles le 31 juillet, les premières en 15 ans. La dernière élection présidentielle palestinienne remonte à la victoire de Mahmoud Abbas en 2005. En Birmanie, des centaines de manifestants pro-démocratie sont sortis dans les rues ce lundi avec des banderoles où l'on pouvait lire « Le peuple ne sera jamais vaincu ». Ils protestent malgré la pression meurtrière du week-end fermement condamnée par la communauté internationale et qui a fait plus de 100 morts, dont plusieurs enfants, durant la journée la plus sanglante depuis le coup d'État militaire. Les funérailles de victimes de la répression du week-end se poursuivent également ce lundi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à l'Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Jubourg.
Au Cameroun, une convention de financement de 650 millions de francs CFA a été signée avec la mairie de Bafang dans l'Ouest pour la construction d'un parc à camions. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation FEICOM des villes moyennes mené avec le financement de la Banque allemande de développement pour notamment améliorer l'accès des populations aux services de base. En République démocratique du Congo, un accord de prélèvement de l'étain de Manono dans la province du Tanganyika a été conclu entre la société minière AVZ Minerals et le géant des matières premières Noble Group Holdings, basé à Hong Kong. L'entreprise compte ainsi mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir démarrer la construction de la mine à Manono. La finance mondiale a été confrontée ce lundi à de fortes turbulences après la vente massive d'actions par la société d'investissement Archegos Capital Management. Le Crédit Suisse s'est effondré de près de 15%. La banque japonaise Nomura a clôturé la séance en chute de plus de 16% et la bourse de New York a ouvert dans le rouge. Vendredi, Archegos Capital Management s'est délesté de parts détenues dans des entreprises américaines et chinoises cotées à la bourse de New York pour plus de 20 milliards de dollars.
À présent, la page des sports avec Bagassi Koura.
Bonsoir à tous. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le Malawi retrouve la Coupe d'Afrique des Nations 11 ans après sa dernière participation en 2010. Sur leur pelouse de Blantyre, les Flamands ont pris les 3 points nécessaires en disposant de l'Ouganda par la plus courte des marges, 1-0, grâce à un but de Richard Mbutu à la 15e minute. Ce sont donc les Flames qui accompagneront en phase finale les étalons du Burkina Faso qui affrontent à l'instant même le Soudan du Sud dans un match sans enjeu. Après donc cette qualification du Malawi aux dépens de l'Ouganda, il reste donc 5 places à distribuer pour cette CAN 2021. Elles se joueront demain mardi. 2 se joueront directement lors de Sierra Leone, Bénin et Guinée-Bissau au Congo. Les deux pays recevant ont besoin d'une victoire pour se qualifier devant leur adversaire. Les 3 autres places se joueront indirectement. La Mauritanie doit obtenir en Centrafrique un meilleur résultat que le Burundi, qui la devance dans les confrontations directes ou compter sur une défaite du Burundi. Un point devrait suffire au Cap-Vert sur le terrain du Mozambique pour se qualifier aux dépens du Rwanda. En effet, l'État insulaire devance le pays des 1000 collines de 2 longueurs et possède une différence de but largement favorable, plus 2 contre moins 2 pour le Rwanda. Et les deux équipes sont à égalité entre elles après 2 matchs nuls de 0-0. Si les Cap-Verdiens ne prennent qu'un point, les Rwandais doivent s'imposer par 4 buts d'écart au Cameroun. Enfin, l'Éthiopie n'a besoin que d'un point en Côte d'Ivoire pour conserver son avance sur Madagascar, qu'elle a récemment dominé 4-0. Et puis, grosse surprise dimanche lors du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Les États-Unis, pourtant favoris dans la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, ont été éliminés en demi-finale par le Honduras 2-1, qui valide ainsi son billet pour Tokyo. Le Mexique, vainqueur du Canada, 2-0 en soirée dans le même Estadio Jalisco de Guadalajara au Mexique, a complété la liste des 16 pays qualifiés. Mexicains et Honduriens s'affronteront mardi en finale de ce tournoi qualificatif.
Merci Bagassi. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique. John Lyndon toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par l'ouverture ce lundi du procès du bombardement de Boaké qui a tué 9 soldats français et un Américain en 2004. Les familles de victimes espèrent avoir des réponses malgré l'absence des 3 accusés, 2 pilotes ivoiriens et un biélorusse. Ce bombardement, survenu en pleine crise entre le pouvoir de Laurent Gbagbo et des rebelles qui contrôlaient le Nord, avait envenimé davantage les relations entre Paris et Abidjan. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint dans l'État de New York Marc Papé, professeur associé à St. John Fisher College.
Et je me rappelle très bien les douloureux moments du 27 novembre, je crois que c'était en 2004, où les avions ivoiriens avaient été détruits au sol à Boaké, à Yamoussoukro, pardon, sous prétexte que les pilotes ivoiriens auraient bombardé un camp en France.
Donc vous estimez que c'était juste un prétexte pour, affaiblir l'aviation ivoirienne à l'époque?
Oh, tout à fait, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, les faits ne font aucun sens, tels que relatés par les Français. Soit ne font aucun sens, ou bien s'ils font sens, ça veut dire définitivement qu'il y a une ingérence hégémonique intolérable de la France en plein 21e siècle en Côte d'Ivoire. Il y avait un contingent français à Yamoussoukro, à Boaké, donc aussi pendant la période, à l'aéroport de Boaké. Les avions, la piste de l'aéroport est partagée et par les Français et par les Ivoiriens. Donc tous les vols de l'armée française, pardon, de l'armée ivoirienne, sont connus par la France. Les bombardements avaient fini de détruire les rebelles. Et au moment même où eux, à Abidjan, le président était sur le point d'aller sur les antennes pour dire que la rébellion est finie et qu'on va aller à la négociation, tout d'un coup, on vient lui dire que des pilotes ivoiriens ont tué des Français. Mais aucune preuve n'a été fournie. Et les Français ont détruit les avions ivoiriens qui étaient revenus de leur mission.
Le rôle présumé de 3 ministres français de l'époque n'a jamais pu être établi officiellement. Vous pensez qu'on en saura un peu plus lors de ce procès?
Non, pas du tout. Enfin, comme j'ai dit, si c'est un procès pour établir la vérité, la procédure est complètement différente. Et on allait même inviter aussi des Ivoiriens dans cette procédure.
Ce bombardement avait quand même contribué à la dégradation des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, déjà à l'époque par Laurent Gbagbo. Comment est-ce que cela avait influé sur la suite du conflit à l'époque?
Justement, ça a été un grand tournant du conflit, puisque le rapport de force entre les rebelles et le gouvernement, c'est-à-dire l'armée nationale, était avec cette petite flotte d'avions, était nettement venue en faveur du gouvernement. Et donc, en brisant, en rompant ce rapport de force, l'armée française, d'abord, la France s'est mise dans le conflit ivoirien comme l'acteur incontournable. Et donc, c'est ce qui a permis la victoire des rebelles qui s'est couronnée par l'intronisation encore une fois sous le bombardement de Ouattara.
C'était donc Marc Papé, joint à Rochester, à New York.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a procédé depuis vendredi au lancement de la campagne électorale pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril. Plus de précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
En 15 jours, les candidats en liste doivent parcourir les 77 communes du Bénin pour défendre leur projet de société. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a ouvert le bal au Palais des Congrès de Cotonou. Le chef de l'État sortant est revenu sur les raisons pour lesquelles il a décidé de briguer un second mandat au lieu de se contenter d'un seul, comme il avait promis. Patrice Talon demande à la population une seconde chance pour achever ce qu'il a su bien commencer.
On peut renouer avec les bonnes habitudes. On peut commencer. J'y croyais. Vous m'avez confiance. Nous nous y sommes engagés et nous avons démontré ensemble que c'était vraiment possible. Nous avons entamé quelque chose. Si le mandat passé a été simplement pour nous, de nous démontrer à nous-mêmes, de nous donner la preuve à nous-mêmes que nous sommes capables, il nous a alors permis d'espérer que pour les temps à venir, nous allons enfin satisfaire.
Du côté de l'opposition, on prend d'abord des attaches avant d'aller sur le terrain. C'est le cas de Corentin Kowé qui reste convaincu que Patrice Talon ne sera pas le prochain président de la République.
Nous avons tant souhaité depuis 2016 un consensus autour de l'opposition pour pouvoir battre le président Talon. Je constate qu'aujourd'hui il y a un peu de cafouillage à notre niveau. Il y a des difficultés certes, mais je crois qu'avec la rencontre qu'on vient de démarrer, il y a de l'espoir.
Pour ceux de l'opposition, rester spectateur pour ces élections, il faut une réorganisation complète de l'opposition. Expérience TB du Mouvement populaire de libération appelle la classe politique à une prise de conscience.
Il y en a qui parlent beaucoup, mais leur objectif n'est plus au niveau des présidentielles. Parce que tout le temps, ils ont été entretenus par celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Ils les connaissent, ils les maîtrisent et ils ne peuvent rien contre lui.
Compte tenu des tensions que le Bénin a connues après le dépôt des candidatures, les populations appellent à la mobilisation autour de la paix et à ne considérer que l'intérêt supérieur de la nation. Adrien Gansou est membre de la société civile.
Il faudrait que chacun se mobilise pour aller accomplir son devoir citoyen et dans la paix, la sérénité. Et nous ne devons pas constituer une menace pour la paix. Les élections doivent être des élections festives. Si nous sommes respectueux des tests de la République, il ne devait plus y avoir des séances où des gens se cultivent la violence.
Les candidats ont jusqu'au 9 avril prochain pour convaincre les populations sur leur capacité à gérer au mieux le pays pour plus de stabilité sur tous les plans. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, comment réussir une meilleure réinsertion des ex-combattants de la crise anglophone? Le gouvernement réfléchit sur la question pendant que les jeunes répentis sont actuellement dans deux centres de désarmement et de démobilisation. Plusieurs opportunités leur sont présentées selon les modules de formation. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le Cameroun compte trois centres régionaux de démobilisation, de désarmement et de réintégration des ex-combattants. Deux sont fonctionnels à Bamenda, dans la région du sud-ouest, et à Boya, dans le sud-ouest du pays. Plus d'une centaine d'ex-miliciens anglophones, communément appelés Amba Boys, y renouent avec la vie normale. Fayengo Francis, coordonnateur du comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration.
Ils vont être réintégrés. Après être formés, ils vont être installés, soit à leur compte, soit en groupe. Mais nous préférons qu'ils fassent des pôles de développement autour des centres qui sont en train d'être construits. Ceux qui vont rapidement finir cette formation, nous allons tout faire pour les mettre sur le terrain.
Les premiers répentis de la crise anglophone ont intégré les centres de démobilisation le 28 janvier 2019. Ils ont exprimé leur ras-le-bol dans les rues de Bamenda et Bouya en février dernier à travers deux mouvements d'humeur. Parmi leurs revendications, les délais de séjour dans les centres, les meilleures conditions de vie, l'obtention d'une allocation pour subvenir à leurs besoins quotidiens et la délivrance des cartes nationales d'identité pour regagner la vie active. Une fois encore, Fayengo Francis, coordonnateur du Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration.
Sur le terrain, la paix n'est pas encore totale. Donc nous faisons attention parce que si on largue ces enfants vite, ils peuvent être des cibles. La réintégration du fait d'une région à une autre, vu le statut de ces ex-combattants, c'est des gens qui vont faire pratiquement la même chose, l'élevage, l'agriculture et peut-être d'autres métiers du jour, l'informatique, menuiserie.
Le Premier ministre Joseph Dion Gonté a ordonné le déblocage de la somme de 35 millions de francs CFA pour financer la réinsertion de 70 ex-combattants parmi les plus anciens du centre de Boya. Un nouveau centre d'accueil multidisciplinaire de 1000 places a été construit et équipé pour les ex-combattants de Bamenda. Depuis le 20 mars dernier, les travaux de construction d'une infrastructure similaire ont été lancés à Tiko, une localité de la région du Sud-Ouest. Peter Ikome Mososo, maire de Tiko.
Je suis très, très content pour l'action du chef de l'État. Il a choisi la commune de Tiko. Il a les instructions strictes qu'il faut qu'ils utilisent les enfants de cette commune pour qu'ils travaillent dans le projet. Ça va nous aider à changer la vie économique.
Dans la région du Nord-Ouest, la réinsertion sociale des pensionnaires passe également par l'utilisation de cette main-d'œuvre dans l'exécution de certains marchés publics. Sixtus Ngapsa Nyunga, coordonnateur du Centre régional de désarmement de Bamenda.
Nous avons effectué plusieurs travaux de construction dans le centre et les ex-combattants qui ont eu de compétences en construction, en menuiserie, en électricité, nous ont aidés à le réaliser. Même dans le centre du BIR, c'est déjà terminé. À l'aéroport, beaucoup de nos ex-combattants ont participé aux constructions.
Le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de la crise anglophone et de Boko Haram a été créé en novembre 2019. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 18 000 enfants non accompagnés sont détenus aux États-Unis depuis qu'ils ont traversé la frontière sud du pays ces derniers mois. Un défi de taille pour l'administration du président Joe Biden qui veut marquer la rupture avec la politique de son prédécesseur Donald Trump en matière d'immigration. C'est un reportage de Michel Quinn, relaté par Nathalie Barge.
En ce qui concerne la gestion de la flambée de migrants à la frontière avec le Mexique, le président Joe Biden obtient un score faible dans les sondages. 57% des personnes interrogées dans une récente étude ABC News Ipsos déclarent désapprouver la façon dont il gère la situation. M. Biden a arrêté la construction du mur frontalier engagé par l'ancien président Donald Trump et a adopté ce qu'il estime être des politiques d'immigration plus humaines. Mais les critiques affirment que ces changements de politique ont conduit des milliers de personnes à tenter le dangereux voyage vers le nord. Certains législateurs se sont rendus à la frontière pour voir la situation par eux-mêmes. Le sénateur républicain d'Alaska, Dan Sullivan.
Pour moi, c'était choquant. Je pense que le président et la vice-présidente doivent aller là-bas, voir ce que j'ai vu, voir ce que les autres membres du Congrès démocrate ou républicain voient arriver là-bas. Il y a des choses que nous pouvons faire immédiatement pour relever les défis. Mais pour le moment, ce sont des frontières ouvertes. C'est une crise humanitaire et sanitaire à laquelle nous devons faire face.
L'administration Biden affirme que la frontière n'est pas ouverte et que des personnes et des familles sont refoulées. L'afflux de migrants est cyclique, affirme-t-elle, estimant qu'une approche à plusieurs volets est nécessaire. Kate Bedingfield, directrice de communication de la Maison-Blanche.
Les flux migratoires ne sont pas le résultat des politiques d'une telle administration ou d'une autre. Ils résultent, par exemple, de catastrophes météorologiques dans la région. Ils sont le résultat de personnes fuyant la pauvreté et la violence.
Joe Biden a fait appel à la vice-présidente Kamala Harris pour diriger la réponse à l'afflux de jeunes migrants non accompagnés, la seule catégorie de demandeurs d'asile actuellement autorisée à présenter des demandes aux États-Unis. L'administration a mis en place 9 abris d'urgence pour héberger les enfants, avant de les envoyer dans un logement plus permanent. Selon l'administration Biden, plus de 80% de ces enfants ont un membre de leur famille aux États-Unis et pour environ 40%, cette personne est un parent.
C'est la fin de ce journal à la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef Timothée Denormaille. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.